Présenté pour la dernière fois il y a 150 ans, l'opéra La Vestale de Gaspare Spontini est de retour à l'opéra de Paris du 15 juin au 11 juillet. Cette œuvre alterne scènes intimistes et tableaux monumentaux dans une mise en scène signée Lydia Steyer, qui explore les thèmes de l'extrémisme religieux et du zèle militariste. Réservez vos places dès maintenant pour cet événement attendu sur opéradeparis.fr.
Beaucoup en ce moment des préparatifs du Festival international du film à Cannes.
La Côte d'Azur est un cadre unique qui permettra de faire connaître à nos hôtes une grande saison du cinéma telle qu'on n'en a jamais vu dans les autres pays. Nous espérons ainsi que le Festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation, de l'accueil et du goût français.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'histoire a droit à bien des gambades et même, pourquoi pas, à traiter d'un événement qui n'a pas eu lieu. Ce sera donc notre audace particulière ce matin. Une audace modeste, je l'admets volontiers, mais tout de même. Nous allons parler, dans la perspective du prochain festival de Cannes, de celui qui devait être le premier et qui n'a jamais vu le jour, celui qui s'est ouvert le 1er septembre 1939, qui aurait dû s'ouvrir si le malheur des temps n'avait pas fixé exactement au même moment, selon un étrange carambolage des temporalités, le début de la Seconde Guerre mondiale. Le projet, alors très précisément dessiné, s'en trouva d'un coup naufragé. Ce festival fantôme, tout évanescent que les circonstances l'aient fait, appelle l'attention, comme il a attiré celle d'Olivier Loub, mon invité, qui y a consacré un ouvrage précieux. Les ombres, grâce à lui, s'y font très concrètes, avec au centre celle d'un personnage hors de pair. Il s'agit de Jean Zay. Jean Zay, le célèbre ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire. Il fut le premier acteur d'une aventure qui avorta sur l'instant, mais qui était destinée à repartir en gloire en 1946, après la libération de la France. Jean Zay, plus tard martyr du régime de Vichy, Jean Zay, dont la dépouille est aujourd'hui au Panthéon. D'autres figures à côté de lui ressurgissent au cœur de cet épisode. De grands créateurs et des administrateurs inventifs témoignent au fil de l'entreprise, sous les auspices de Louis Lumière, de la vitalité du cinéma, cet art qui était alors, en somme, neuf encore. Avec, en fond de tableau, entre les dictatures provisoirement triomphantes, les démocraties assaillies, les tâtonnements d'une diplomatie culturelle qui cherchait sa place parmi la barbarie des affrontements militaires qui s'annonçaient et qui allaient bientôt occuper pour un temps l'entièreté du paysage.
On parle beaucoup en ce moment des préparatifs du Festival international du film à Cannes. Il nous a paru intéressant d'aller demander à M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et président du Festival international du film, comment il envisageait cette manifestation.
Le festival durera du 1er au 20 septembre. La Côte d'Azur est un cadre unique qui permettra de faire connaître à nos hôtes une grande saison du cinéma telle qu'on n'en a jamais vu dans les autres pays. La municipalité de Cannes s'est préoccupée de recevoir dans des conditions dignes de l'hospitalité française les représentants internationaux du monde cinématographique, de la grande presse et les artistes les plus illustres. Du reste, les préparatifs se poursuivent activement à Cannes. Déjà depuis 4 semaines, L'équipe technique chargée de l'organisation du festival travaille à la préparation du cadre dans lequel il doit se dérouler. Les travaux d'aménagement du hall du casino transformeront celui-ci en une salle luxueuse qui contiendra 1000 places. Cette salle sera dotée de tous les perfectionnements de la technique et du confort. Décoration ultramoderne, sonorisation méticuleusement étudiée, fauteuil spacieux, rien n'a été omis. Et en dehors de ceci, un programme de fête extrêmement important est prévu. Je présiderai le 1er septembre le dîner d'inauguration. Le 4 septembre, la nuit du cinéma promet d'être l'un des événements de l'année.
Le Festival international du film à Cannes a-t-il pour but, monsieur le ministre, de remplacer la Biennale de Venise, comme on l'a affirmé à maintes reprises?
Jamais les organisateurs de ce festival n'ont envisagé la question sous cet angle. Le Festival international n'est pas créé dans le but de combattre des manifestations déjà existantes, et encore moins de les imiter. Le règlement même le prouve.
Olivier Loup, bonjour.
Bonjour, cher Jean-Noël Jeannet.
Nous venons d'entendre Jean Zay, le 1er juin 1939. Le décor est fixé, l'intention est affichée, le premier acteur est installé.
Oui, ce texte est d'ailleurs très très intéressant pour nous parce qu'il dit à la fois ce que fut le Festival de Cannes et ce que l'on ne voulait pas dire qu'il fut. On voit un ministre en train de lénifier un petit peu à propos de cet événement et de nous dire qu'au fond, on n'est pas là pour être contre le Festival de Venise, la Mostra, alors même que le Festival de Cannes est né effectivement contre la Mostra de Venise.
Nous allons voir constamment, au long de notre conversation, qu'il y a une combinaison, parfois un choc, entre la préoccupation de la diplomatie culturelle et le souci de soutenir le cinéma, et notamment le cinéma français.
Oui, c'est bien un acte de diplomatie culturelle, d'une diplomatie culturelle qui s'invente. Voilà pourquoi les propos sont diplomatiques, mais les intentions sont extrêmement claires, extrêmement fermes. Il s'agit de dire la force culturelle aussi des démocraties face aux dictatures.
Et on ne comprendrait rien, on vient de discerner dans cette archive, si on ne parlait pas de la Mostra de Venise, qui elle-même est relativement récente, mais qui a pris dans le monde du cinéma un prestige considérable.
Tout démarre à Venise, en effet. Tout démarre à Venise, d'abord dans la reconnaissance du cinéma comme un art. Voilà pourquoi tout le monde du cinéma est particulièrement attaché à cette Mostra, qui à partir de 1932 vient donner un cadre au sein de la Biennale qui s'est installée à la fin des années 1890 à Venise, une place qui est reconnue comme étant celle du 7e art, enfin, enfin. Et donc, à Venise, tout ce monde vient chaque mois d'août pour dire que le cinéma est un art et cela est irremplaçable.
Vous voulez dire qu'auparavant, cela apparaissait à la plupart comme une sorte de divertissement populaire?
Absolument, le cinéma est à la recherche depuis ses débuts, ou presque, de cette reconnaissance. On le voit par exemple dans ce que David Griffiths essaie de faire aux États-Unis, en imposant ses 12 bobines, en disant qu'il n'est pas plus discutable ou pas moins que la Bible ou que Shakespeare lorsqu'il s'agit de savoir ce que contiennent des films. On le voit aussi dans la façon dont les producteurs cherchent à avoir une place de reconnaissance. Et les auteurs, on pense à Chaplin, on pense à Fairbanks, lorsqu'ils créent les artistes associés dès les années 1920, afin d'être reconnus à la hauteur de ce que peut être le théâtre par exemple. Alors le cinéma, c'est quelque chose qui séduit parce qu'il est à la fois l'art des foules et l'art des élites. Et cette conjonction est quand même particulièrement rare. C'est l'art des foules parce qu'il repose sur cette illusion de la persistance rétinienne, du fait que quand on va dans une salle obscure, on a une impression de mouvement, alors même qu'il s'agit d'une succession d'images fixes qui défilent devant nous, et aussi sur cette idée que tout le monde y va comme un grand spectacle où, dans la salle de cinéma, s'opère une fusion qui n'existe pas ailleurs, même dans les salles de théâtre, même dans les salles d'opéra, quoi qu'on puisse en penser. Et donc là, pour les élites, ce qui est formidable, c'est que c'est une façon d'opérer ce lien avec la population ou avec les masses. Mais ces élites peuvent être aussi bien des élites de dictature, et les dictateurs sont particulièrement fascinés par l'art des foules, évidemment, pour les toucher, pour essayer de les manipuler.
La propagande dont Goebbels, à cet égard, est un prototype particulièrement éclatant.
Goebbels est un maître dans ce domaine-là, c'est quelqu'un qui va chercher à contrôler dès l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, dès 1933, le monde du cinéma, le monde de la production de la presse bien entendu, mais particulièrement celui du cinéma, et c'est vrai pour Mussolini, qui va créer quand même Cinecittà, Et ça n'est pas par hasard s'il fabrique cette usine à rêve proprement italienne.
Un de ses fils d'ailleurs, Vittorio, est lui-même aidé par son père dans la promotion de son œuvre et lui-même réalisateur.
Absolument, et Vittorio va être d'ailleurs récompensé en 1938 par la coupe de son père, c'est-à-dire la coupe Mussolini va récompenser Vittorio Mussolini pour un film qui s'appelle Luciano Serra Pilote.
Ça se passe en famille.
Ça se passe tout à fait en famille, mais dans cette conviction commune qui est que le monde des images, c'est le monde de l'entraînement des foules derrière les leaders. Mais ça concerne aussi les élites démocratiques. Jean Zay, par exemple, est un cinéphile. C'est quelqu'un qui, dès qu'il le peut, va voir des films. Il n'est pas le seul dans le monde politique français, mais il est très représentatif de ce jeune monde politique, car on oublie toujours que la Troisième République avait aussi ces jeunes acteurs politiques particulièrement intéressés par le cinéma.
Naturellement, Jean Zay va être au centre de notre conversation ce matin et c'est pourquoi je l'ai donné à entendre dès le début. Il est un de ceux qui a pris conscience, effectivement, vous le dites, de ce que le cinéma pouvait signifier, non seulement pour la propagande, c'est un mot qu'il refuse, au moins ouvertement, mais pour l'évolution d'une sensibilité culturelle, y compris populaire. À propos de Jean Zay, je dois dès à présent signaler que vous venez de publier dans la collection Bouquins un magnifique volume en complicité avec Pierre Laurent, qui est doyen de la faculté de droit d'Orléans, Orléans dont Jean Zay était le député et qui est essentiel pour l'histoire, pour l'éclosion de son talent et de son influence. Jeunesse de la République, nous en reparlerons, mais il y a là rassemblé toute l'œuvre de Jean Zay qui lui donne, je crois, toute sa place dans la sensibilité collective. Il a fallu du temps, d'ailleurs, pour qu'il soit reconnu comme essentiel jusqu'à son arrivée au Panthéon, si je puis dire, sous le quinquennat de François Hollande en 2015.
Oui, Jean Zay, c'est un de ces paysages méconnus. Et je dis paysage volontiers au sens de silhouette de la Troisième République. Alors, il est méconnu pour des raisons très objectives. Il appartient à un parti, le Parti Radical, qui effectivement n'est pas un groupe porteur de mémoire après la Libération qui soit fort. Il est aussi méconnu parce qu'il a été assassiné sauvagement par les miliciens en 1944 et qu'il n'a pas laisser une œuvre immédiatement reconnaissable parce qu'il n'y a pas de grande loi à Jean Zay. Il y a tout un travail formidable, hein, tout un travail de ministère très fort autour de l'éducation nationale, autour de la culture, on va y revenir, mais il n'y a pas de loi qui le rende visible, alors même que le tournant sous Jean Zay est aussi important, à mes yeux, que le tournant sous Jules Ferry.
Toute une œuvre que, d'ailleurs, a étudié de près naguère Pascal Auré, qui préface votre ouvrage sur Jean Zay, votre recueil avec Pierre Laurent sur l'ensemble de l'œuvre de Jean Zay.
Oui, Pascal Horry, c'est le grand découvreur de l'importance culturelle de Jean Zay. C'est aussi lui qui préface Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu chez Dunod. Et donc, on voit combien il est important, combien il a été notre pionnier pour ce qui est de l'ouverture de l'histoire culturelle de ce Front populaire.
Alors, venons-en à cette genèse. Il évoquait lui-même la Mostra de Venise, vous l'évoquiez il y a un instant, 1932. Pourquoi, comment l'idée vient-elle de concurrencer cette manifestation désormais essentielle pour la promotion du cinéma, mais que les démocraties, à mesure que s'affirment les dictatures, Italie et Allemagne, ne peuvent de moins en moins accepter comme dominant l'ensemble du paysage?
On pourrait dire que jusqu'à 1937, tout va bien entre les démocraties et la Mostra de Venise. Et on pourrait dire aussi que le premier inventeur du Festival de Cannes, c'est Joseph Goebbels. Parce que c'est lui qui, le premier, décide d'agir, de peser, d'œuvrer pour que, à la Mostra de Venise, il y ait désormais une ligne qui soit une ligne de reconnaissance et de valorisation des œuvres fascistes et nazies.
Goebbels, qui est le ministre de la propagande de Hitler.
Joseph Goebbels, qui est effectivement le ministre de la propagande d'Hitler, mais qui est aussi quelqu'un de passionné, qui est passionné par le cinéma et qui va peser. On le voit d'ailleurs dans son journal, puisqu'il nous a laissé un journal. Il écrit très clairement en 1937 que les choses ne peuvent pas continuer comme elles le sont à Venise, c'est-à-dire un endroit où les films français, les films anglais, les films américains peuvent être récompensés, alors même que les films allemands, de son point de vue, y seraient maltraités. En particulier, La Grande Illusion de Renoir va le heurter profondément, puisque, évidemment, dans ce film, il y a un moment où la Marseillaise est entonnée par des prisonniers de guerre pendant la Première Guerre mondiale, dans un fort où ils sont retenus, un fort allemand, et la salle entière, dit-on, se lève et chante à Venise, en pays fasciste, la Marseillaise, aux grandes dames de Goebbels, qui depuis Berlin dit il va falloir s'occuper de ce festival, ce qu'il fait dès l'année suivante.
Donc passage de 1937 à 1938, et sans la Mostra de 1938, on ne comprendrait pas le festival avorté, le festival rêvé de 1939 à Cannes dont nous parlons ce matin.
Oui, car en 1938, le palmarès de la Mostra de Venise est téléguidé par Joseph Goebbels qui tient absolument et qui réussit à imposer le fait que ce soit le film de Leni Riefenstahl que nous appelons les dieux du stade, qui s'appelait encore Olympia,
Olympia
à l'époque, soit primé et reçoive la coupe Mussolini ex aequo avec le film de Vittorio Mussolini qui s'appelle Luciano Serra Pilote.
Le fiston dont nous parlions tout à l'heure.
Exactement, le fils donc du Duce. Et donc on a à la fois un palmarès qui est celui de l'Axe, il ne manque plus qu'un film japonais pour que ça soit parfait, mais effectivement... Ça aurait pu être possible, parce qu'à cette époque-là, d'ailleurs, le cinéma japonais produit autant de films ou presque que le cinéma américain, ce qui est assez peu connu.
D'où le déclic, l'idée qu'il faut un contre-festival, en somme un festival des pays libres, c'est l'idée initiale. Il y a eu, comme toujours, beaucoup de personnalités qui ont affirmé que c'était eux qui avaient eu l'idée. Et au premier chef, c'est peut-être au moins partiellement vrai, Philippe Erlanger, qu'il faut que vous nous présentiez.
Philippe Erlanger est un personnage clé de cette naissance de Cannes. Il est clé à la fois dans la façon dont il emporte la mémoire et la façon dont il en a été un acteur. Alors un acteur, c'est un acteur incontestable, mais une mémoire, c'est une mémoire largement appropriée aussi. Donc on a les deux facettes. C'est un homme d'abord qui est issu d'une famille qui est très ancrée dans le monde artistique.
Musical en particulier.
Son père, effectivement, est à l'époque un auteur à succès dans le domaine lyrique. Et sa mère est ancrée dans le monde du cinéma, puisque avec Germaine Dulac, sa mère s'appelle Hélène Hillel Erlanger, elle va fonder, deux femmes, hein, en 1916, une maison qui est une maison de production de cinéma. Et en plus, Germaine Dulac, comme on le sait, est une autrice et une productrice particulièrement engagée dans un cinéma novateur, un cinéma dans lequel le rôle des femmes est mis en avant. Donc on a avec Erlanger un homme qui a été nourri de l'artistique, cinéma compris.
D'autres ont eu une révélation près d'un pilier d'église. Lui, c'est dans le wagon-lit, en rentrant de Venise. Il le raconte de la sorte.
L'idée m'est venue dans un wagon-lit. Il y avait eu une grande bagarre au Festival de Venise, où je représentais la France, parce que M. Goebbels s'était intervenu pour fausser les résultats et peser sur les décisions du jury, ce qui avait provoqué évidemment une vive irritation, notamment de la part des anglo-saxons. On était à la veille de Munich, on s'attendait à la guerre. J'ai pris le train le soir même, j'ai pas pu dormir, il y avait beaucoup d'événements qui m'empêchaient de trouver le sommeil. Et c'est alors qu'il m'est venu l'idée que la place était maintenant libre pour un autre festival qui aurait été, à l'époque, nous sommes en 1938, le festival du monde libre. Le gouvernement était très divisé. Il y avait ceux qui voulaient ménager l'Axe et il y avait ceux, au contraire, qui voulaient y résister. Finalement, Hitler ayant eu l'idée d'occuper Prague, ça a été très fâcheux pour la paix du monde, mais ça a déclenché le festival. On m'a chargé de le faire. Ça a été extraordinaire parce que j'avais organisé des fêtes qui devaient avoir lieu tous les jours. Les Américains avaient frété un paquebot entier, un transatlantique, pour envoyer leurs vedettes. Il y avait Norma Scherer, il y avait George Raft, Annabella, Tyrone Power. J'ai eu du mal un peu avec les Américains parce qu'ils avaient une idée fixe, c'était de construire Notre-Dame de Paris sur la plage de Cannes. Parce qu'il y avait un film tiré du roman de Victor Hugo, alors je leur ai expliqué que Notre-Dame au milieu des palmiers, ça ne serait peut-être pas très bien, enfin bon, la question n'a pas été tranchée, elle a été tranchée malheureusement d'une toute autre façon. J'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé en réalité.
Erlanger arrive avec son idée, elle a fait accepter par un certain nombre d'autres personnages actifs, de grands administrateurs, notamment Georges Huysmans, qui est directeur des Beaux-Arts et sous l'autorité de Jean Zay.
Oui, parce que la création de Cannes, c'est un film choral. Bien sûr, on a le chantre qui est Erlanger et qui est un acteur aussi, mais il n'est pas en position institutionnelle de décider de quoi que ce soit. Il est un des représentants, il dit qu'il est le représentant, mais il n'est qu'un des représentants français à la Mostra de Venise en 1938.
Erlanger qui est le directeur de l'Association française d'action artistique, l'ancêtre de notre Institut français d'aujourd'hui.
C'est exactement l'ancêtre de l'Institut français que cette institution qu'il dirige. Il y a été placé par Albert Sarrault, mais à la Mostra de Venise en 1938, le délégué français s'appelle René Jeanne. Donc Erlanger est bien là, il est important, mais il n'est pas ni le seul, ni même le principal. De la même façon, en France, Il est à la tête de cette institution, mais il y a le directeur des Beaux-Arts qui s'appelle Georges Huysmans, qui est un personnage considérable, sorte de ministre bis hein, de la culture à cette époque-là. Et il y a bien sûr le ministre en titre qui est Jean Zay.
Ministre bis, c'est beaucoup dire parce que Jean Zay a vraiment une autorité très marquée, y compris sur son directeur.
Oui, bien sûr. Mais quand je dis ministre bis, ce que je veux dire, il faut pas se méprendre sur la formule, c'est qu'il a la tête des services, pardon, depuis 1934. Et qu'il a en particulier présidé à l'organisation de plusieurs événements internationaux et qu'il représente au fond ce que l'État culturel français a de meilleur dans ses structures. En revanche, la décision politique ne lui appartient bien sûr pas. Et d'ailleurs, Jean Zay, il faudrait rajouter à Jean Zay Édouard Daladier, l'air de rien, personnage oublié dans cette histoire la plupart du temps.
Président du Conseil, chef du gouvernement.
Le chef du gouvernement, le président du Conseil, celui qui au bout du bout décidera de l'existence d'un festival de Cannes, ce sera bien Édouard Daladier. Il n'empêche, l'idée vient bien à Erlanger dans son train, d'accord, mais rencontre l'écho de cet état culturel de Front Populaire qu'Huysmans incarne, mais que Jean Zay guide dirige à ce moment-là vers la création de ce festival.
Et en même temps, il est toujours intéressant de voir le jeu des forces qui aboutissent à une décision, car on a songé à différents lieux à l'origine où on aurait pu établir ce festival. Il y a eu Biarritz, mais il y a eu aussi Deauville, Vichy, déjà c'est prémonitoire, et même Alger.
Et même Alger, parce qu'il y a à ce moment-là un énorme point géopolitique qui est celui des revendications mussoliniennes sur la Méditerranée, que ce soit la Corse, Nice, mais surtout la Tunisie. En particulier, donc, Alger, c'était une façon d'indiquer, et ça c'est Daladier qui au départ le souhaitait, que au fond cette action était une vraie action de géopolitique culturelle.
Autre personnage donc qui affirme avoir joué un rôle essentiel, le maître du grand hôtel de Cannes, Henri Gendre, un autre parrain potentiel du festival de Cannes de 39.
Absolument, Henri Gendre qui est directeur du Grand Hôtel de Cannes est non seulement un parrain potentiel, mais il est un acteur réel de la création de Cannes à Cannes.
Donc le Grand Hôtel précède le Carlton d'aujourd'hui.
Le Grand Hôtel, c'est le premier Grand Hôtel incarnant Cannes, donc c'est le prédécesseur du Carlton. Mais il faut dire qu'Henri Gendre est un homme de grande vision, et les Cannois lui doivent beaucoup. Il n'est pas, je crois, à l'heure actuelle honoré comme il le mériterait à Cannes, parce que c'est bien grâce à lui que c'est à Cannes qu'a été fondé ce festival. En effet, ce qu'il fait, c'est qu'il entreprend une politique de lobbying très intense, avec cette certitude que les Américains ne souhaitent plus aller à Venise et que donc il faut les installer là où ils viennent en villégiature, sur cette French Riviera qu'ils connaissent et où Tyrone Power et Annabella viennent de se marier justement en passant au Grand Hôtel. Donc Henri Gendre est très cohérent dans ses choix et il rencontre aussi les choix qui sont ceux du maire de Cannes, Pierre Nouveau, et des autres restaurateurs, plus exactement des autres grands hôteliers, en disant la chose suivante. Si on fonde un festival du cinéma à Cannes en septembre, on prolongera la saison aussi. Donc tout se conjugue pour faire de Cannes le réceptacle de ce futur festival.
Les exploitants seront moins contents sur place.
Sur place, les directeurs des salles de cinéma sont même particulièrement fâchés parce que le festival, à l'époque, envisage de les priver des recettes qui pourraient se tenir à ce moment-là ou plutôt des recettes qu'ils pourraient avoir à ce moment-là.
Vous évoquez le rôle des Américains. Ce soutien est fondamental à l'origine de ce festival de 39 dont nous parlons ce matin.
Moi, ce que j'ai trouvé, ce que je crois être un des points les plus neufs de ce livre, Cannes 1939, c'est le rôle des Américains qui sont vraiment, pour parler dans un langage cinématographique, coproducteurs de la naissance du festival de Cannes. C'est très important. D'abord, ce sont les plus constants dans le refus de la dictature fasciste, dans le refus de Venise. Il faut savoir qu'en 1939, les Américains n'iront pas à Venise. Ils avaient démissionné en 1938, alors que les Anglais qui avaient démissionné retournent à Venise avec une sélection officielle en août 1939. Et que les Français n'ont pas de sélection officielle, mais que les producteurs et les distributeurs de films français sont autorisés à présenter des films à la Mostra de Venise. Donc, à la Mostra de Venise 39, il y a des films anglais, officiellement, il y a des films français officieusement, il n'y a aucun film américain. Les seuls à tenir la ligne, les seuls à tenir la digue antifasciste pour ce qui est de la Mostra de Venise, ce sont les Américains. Ils sont particulièrement engagés dans ce libéralisme politique.
Et Jean Zay le sent très bien, qui va aux États-Unis à ce moment-là et qui, d'autre part, dans un banquet spécifique à Paris, ensuite rassemble des responsables du secteur américain et vient en quelque sorte lier la gerbe.
Oui, Jean Zay, c'est un Rooseveltien, on pourrait dire, dans notre vocabulaire actuel. Il est très intéressé et très heureux d'aller aux États-Unis en 1939, au printemps 1939. Et ce repas auquel vous faites allusion, c'est un repas fondateur. C'est la scène hein, originale de la création du Festival de Cannes. Puisque d'un côté, on a tout le gouvernement français, avec Philippe Erlanger, avec aussi Jean Zay, mais on a aussi tous les représentants de l'industrie cinématographique américaine. Et qu'est-ce qui se décide à ce moment-là ? Deux choses. D'une part, il y a la validation du règlement. Le premier règlement du Festival de Cannes, il est adopté par une commission du gouvernement français, mais avec des discussions concernant les Américains. Et puis, d'autre part, ce qui est décidé aussi, c'est un prototype des fameux accords Bloom-Burns de 1946, où désormais, à l'été 1939, il est décidé par le gouvernement français, en accord avec les autorités américaines, que ce que nous appellerions de nos jours les produits culturels américains, dans le cinéma en tout cas...
Notamment les films doublés.
Voilà, en fait, on parle de façon très pudique de l'autorisation d'accès non contrainte des films doublés, sauf que les films doublés en 1939, à 95%, ce sont des films américains. Donc voilà ce que ça signifie. En 1939, en tout cas, on voit bien que le deal entre le gouvernement français et les studios hollywoodiens est très clair. C'est l'alliance de libéralisme politique. On ne peut pas accepter la mainmise de Goebbels sur le palmarès des festivals de Venise, mais c'est aussi un deal économique. Il s'agit de libéraliser le marché, d'ouvrir la diffusion des films américains sur tout le continent européen, en commençant par la France, chose que les Italiens refusent en septembre, justement, 1938.
Nous évoquions Jean Zay et son intérêt pour le cinéma. Il se manifeste d'autres façons à l'époque.
Jean Zay a une politique du cinéma qui représente vraiment la politique culturelle qu'il a souhaité avoir. Une politique du cinéma qui incarne sa politique culturelle en général. D'abord, de construire une profession qui soit structurée. Par exemple, le projet de statut du cinéma de 1939, de mars 1939, qui ne fut pas voté par manque de temps, prévoyait d'installer une carte professionnelle. C'est l'origine, la fondation de ce qui donnera beaucoup plus tard l'intermittence du spectacle, dans tous les arts, hein, pas simplement pour le cinéma. C'est aussi lui qui prévoit la possibilité pour l'État de financer le cinéma en créant une banque ad hoc.
C'est l'origine, en somme, de l'avance sur recette d'aujourd'hui qui a permis l'essor magnifique du cinéma français après la Libération.
Absolument, c'est l'invention de ce qui sera plus tard l'avance sur recette, de la même façon que pour le monde du théâtre, il avait inventé le fait de récupérer de l'argent sur la vente des postes de radio afin de le donner à la profession théâtrale. Donc l'État, qui est l'État culturel du Front populaire, invente tout ce système de lien entre la production culturelle et le financement par l'État qui est resté le nôtre avec des inventions évidemment renouvelées. Mais il n'empêche, c'est là que ça se fait.
On tâtonne encore un peu, on pense parfois à la mutualisation, les spectateurs devant par l'achat des billets permettre la création d'autres films ensuite. Écoutez ce qu'on dit avec beaucoup de considération pour Jean Zay, Jean Renoir, l'auteur de l'immortelle Règle du jeu.
Nous savons que le financement de cette production se fera dans des conditions toutes nouvelles. Plus de gros commanditaires, paraît-il. Mais les spectateurs fourniront eux-mêmes les capitaux nécessaires.
Écoutez, un Paris Film coûte assez cher. Évidemment, il ne coûtera pas ce que coûterait ce film en Amérique. Enfin, tout de même, n'est-ce pas, il faut de l'argent. Alors nous avons pensé demander aux futurs spectateurs de nous avancer une somme de 2 francs. Contre cette somme de 2 francs, ces futurs spectateurs toucheront un billet. Et ce billet vaudra 2 francs. Lorsqu'ils se présenteront devant un cinéma, que ce soit le Marignan, avenue des Champs-Élysées, où la place coûte 20 francs, ou un cinéma de village où la place coûte 2 francs, n'est-ce pas ? Eh bien, le billet qu'elle présentera vaudra 2 francs et sera déduit de la somme à payer.
Mais vous êtes en accord, je crois, à ce sujet-là avec le gouvernement.
Écoutez, nous avons eu la joie de trouver chez M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, un appui magnifique. D'ailleurs, M. Jean Zay nous fera l'honneur, le 12 du mois prochain, d'exposer lui-même le point de vue du gouvernement à ce sujet.
Il ne s'agit pas, semble-t-il, ici de la règle du jeu, Olivier Loub, mais plutôt de la Marseillaise, autre film célèbre de Jean Renoir.
Oui, effectivement, Jean Renoir s'exprime ici à propos de la Marseillaise, qui avait suscité, de sa part, une grande inventivité en termes de subventions, mais de subventions demandées au public, une sorte de souscription par le public même, et un lien très front populaire d'ailleurs, entre un film qui met en avant le peuple dans la Révolution et le soutien populaire à son financement.
On ne peut pas comprendre l'émergence de ce projet à vocation durable, Cannes 1939, si on ne se réfère pas à la situation diplomatique internationale et au fait que Jean Zay, au fond, invente une sorte de diplomatie culturelle et que les choses vont se nouer puisqu'on est à la fin 1938. Il y a septembre Munich, puis la politique de Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, très ouverte à l'égard de l'hitlérisme et des dictatures centrales. On ne peut pas comprendre tout cela sans s'attacher au paysage, et en particulier à l'opposition entre tout simplement les Munichois et les anti-Munichois. Je vais vous faire entendre un propos de Georges Bonnet qui date de décembre 1938. On a invité avec solennité Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères de Hitler, à venir à Paris, avec l'idée que, 3 mois après Munich, il est possible de rétablir des relations diplomatiques, c'est l'idée de Georges Bonnet, avec l'Allemagne hitlérienne, et en particulier dans le domaine culturel et intellectuel. Ce que refusent absolument les anti-munichois, dont Jean Zay est une personnalité phare. Il faut rappeler qu'on est dans le pire de la politique munichoise.
Oui, on est absolument dans le pire de la politique munichoise, puisque le banquet de réception de Ribbentrop verra la demande de Ribbentrop acceptée par le gouvernement français d'écarter de fait les ministres juifs ou considérés comme tels.
Même si Jean Zay ne se considérait pas comme juif, puisqu'il était protestant. Son père était juif, mais sa mère était protestante.
Absolument.
Eh bien, écoutons Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Daladier, décembre 1938.
Je me félicite hautement de la signature de cette déclaration franco-allemande. Il n'existe entre les deux pays aucun différent de nature à mettre en cause la base pacifique de leur rapport. Cette conviction se trouve renforcée par l'appréciation mutuelle de la valeur des échanges intellectuels qui ont toujours existé entre les deux nations. Je ne doute pas que cette déclaration commune n'apporte à l'apaisement général une contribution dont l'avenir confirmera toute la valeur. Elle marque une étape particulièrement importante dans cette œuvre de réconciliation et de coopération à laquelle la France souhaite ardemment voir tous les peuples s'associer.
Tous les peuples associés, formule donc de Georges Bonnet. Curieuse formule avec le recul, n'est-ce pas, Olivier Loub?
Oui, c'est bien étrange. Dans cette période où Georges Bonnet est le tenant de ce qui est le plus renforcé de la politique d'apaisement, c'est-à-dire de ne pas fâcher les dictatures, mais qui va jusqu'aux compromissions, on vient de le voir avec ce banquet de l'accueil de Ribbentrop, et qui va jusqu'à aussi signer le 26 décembre 1938 un accord avec le cinéma allemand qui autorise le cinéma allemand à pénétrer le marché français complètement, au moment même où, par ailleurs, les films soviétiques sont interdits de diffusion commerciale en France. Donc il y a là des choix forts et des choix assumés par Georges Bonnet, qui est l'adversaire au sein du gouvernement de Jean Zay. C'est un gouvernement Édouard Daladier dans lequel se combattent les Munichois, ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas fâcher les dictatures, et les anti-Munichois, ceux qui pensent qu'il faut montrer la force des démocraties face aux dictatures, écho fort jusqu'à nos jours, mais écho particulièrement important à ce moment-là. Et il faudra l'anéantissement en mars 1939 de la Tchécoslovaquie pour que la ligne munichoise disparaisse pleinement et que le Festival de Cannes puisse naître.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il faut se pencher naturellement sur la question de la sélection, parce que elle n'est pas neutre, elle n'est pas seulement fondée sur des critères artistiques, mais il y a aussi des critères, là encore, diplomatiques et politiques.
et industriel. Parce qu'en fait, la sélection répondait au principe suivant. D'une part, on avait un nombre de films en compétition qui était proportionnel au nombre de films produits par an. Donc, les États-Unis, en produisant plus de 300, ils avaient droit à 12 films en compétition. Alors que ceux qui en produisaient, comme les Français et les Anglais, plus de 100, avaient droit à 4 films en compétition. Et ceux qui en produisaient moins avaient droit seulement à 2 films. Bien sûr, et de façon diplomatique et géopolitique évidente, on a fait une place à part aux films soviétiques, puisque les Soviétiques produisant à peine une trentaine de films à l'époque, on a quand même autorisé le fait qu'ils arrivent avec 4 films. Sinon, ils ne seraient pas venus, ils ne souhaitaient pas avoir moins de films que les Français et les Anglais. C'était très clairement posé dans les échanges diplomatiques. Donc, premier critère, la production. Et ça, on voit combien les Américains ont pesé dans ce premier critère aussi. Deuxième critère, c'est un critère, les films sont choisis par les pays eux-mêmes. Il faut oublier ce que nous savons du Festival de Cannes actuel, où il y a une force particulière du festival, une indépendance réelle du festival, qui choisit dans le monde entier les films qu'il souhaite voir en compétition. À l'époque, c'est pas du tout ça.
Il y a des commissions nationales qui interviennent avec évidemment un poids du politique très marqué.
Mais qui est décisif, qui est central. En fait, il n'y a, à Venise d'ailleurs, comme à Cannes, il n'y a de films que ceux que les gouvernements proposent, en fait.
Alors rappelez-nous ceux qui sont proposés du côté français, car ils sont prestigieux.
Alors du côté français, le prestige est un prestige relatif. Il est fort du côté des réalisateurs, puisqu'on retrouve des films de Julien Duvivier ou des films de Jacques Feder. Ils sont forts du côté des acteurs et des actrices. On y voit Louis Jouvet, on y voit Michel Morgan. En revanche, en 1939, c'est plutôt les films secondaires des uns et des autres. Par exemple, si on prend le cas de Julien Duvivier, il présente à ce Festival de Cannes 1939 un film qui est un film secondaire dans son œuvre, qui s'appelle « La charrette fantôme ».
Oui, alors que quelques semaines plus tôt, à Venise, il a présenté un film qui est demeuré aujourd'hui plus prestigieux.
Le film prestigieux qu'il présente à Venise, c'est celui qui s'appelle « La fin du jour », avec en particulier Michel Simon, au meilleur de sa forme, si on peut dire ça, à ce moment-là. Alors que « La charrette fantôme », évidemment, a disparu de nos filmographies et de la cinéphilie quasiment aussi.
Et au fond, de même, « La loi du Nord » pèse assez peu dans la carrière de Michel Morgan. On est loin du « Quai des brumes » qui est présenté, je crois, en 1938 à Venise.
Oui, absolument, qui avait été l'objet d'un débat d'ailleurs, parce que c'est un film assez pessimiste, comme tout le monde le sait.
Pourtant, elle a de beaux yeux.
Ah, elle a de très beaux yeux. Et
tu as de beaux yeux, tu sais.
Et donc, Quai des Brumes avait été l'objet d'un débat dans la presse et dans les milieux gouvernementaux. Fallait-il aller à Venise avec Quai des Brumes, qui présentait une image de la France plutôt dépressive? Et à ce titre-là, d'ailleurs, on remplacera Le Havre par Quelque part. Donc, c'était quelque chose de devenu intemporel et même en dehors des lieux.
Les films américains, en revanche, sont prestigieux et demeurent prestigieux aussi, ceux qui devraient être présentés à Cannes en 1939.
Alors là, une sélection extraordinaire.
Le cinéma américain a frété un paquebot pour faire arriver ses vedettes.
Effectivement, les grands studios se sont coalisés. D'ailleurs, c'est quelque chose de remarquable. Ce que nous appelons le cinéma américain à l'époque fonctionne presque en autonomie par rapport au gouvernement. Cas inverse de ce qui se passe en Europe, par exemple, la sélection, on parlait de sélection nationale tout à l'heure pour les films qui étaient envoyés à Cannes, elle était effectuée uniquement par la profession. C'est ce qu'on appelle la MPA, la Motion Picture Association, qui fabrique et qui propose la sélection. Et c'est un personnage extraordinaire qui s'appelle Harold Smith, qui est au cœur de cette entreprise américaine, qui est commerciale et géopolitique, sans que le gouvernement s'en occupe beaucoup. Il n'y a pas de ministre de la Culture aux États-Unis.
Et ça donne Le Magicien d'Oz avec Judy Garland, ça donne Elle et lui, qui sera repris ensuite par Léo Carré, ça donne Monsieur Smith au Sénat, Monsieur Smith Goes to Washington.
Ce sont des films qui sont restés comme étant des films majeurs dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Alors on est au début de cet âge d'or, mais il n'empêche qu'il est prodigieux. Monsieur Smith au Sénat, c'est le film de James Stewart par excellence. C'est le Capra politique, c'est le Capra rooseveltien, c'est le Capra de la démocratie libérale. Évidemment, Le Magicien d'Oz, lorsque vous parlez des Américains qui aiment ou qui font du cinéma à l'heure actuelle, c'est leur Madeleine. Ce film-là, ils aiment le voir, le revoir à jamais.
Il n'y a pas, vous le disiez, de ministre des Affaires culturelles américain, mais il y a une vraie diplomatie culturelle.
Cette diplomatie culturelle est incarnée par les studios. Et c'est ça qui est surprenant pour nous. C'est cette rencontre entre le gouvernement français et les studios américains. Ces studios américains sont d'ailleurs très peuplée par des immigrants européens qui savent particulièrement ce qui se passe en Europe centrale, particulièrement ce que fait le régime de Goebbels et de Hitler au cinéma et à l'art et à la culture, et qui sont donc très réactifs. La surprise pour nous, malgré tout, c'est qu'ils n'envoient pas leurs films anti-hitlériens, car Hollywood fabrique des films anti-hitlériens. À Cannes, en 1939, aucun de ces films anti-hitlériens n'est en production, en promotion plutôt.
En revanche, il y a un film tchèque, après la mort de la Tchécoslovaquie, le film de Haas, qui émeut avec le recul, puisqu'il représente un pays qui n'existe plus. On songe à ces îles de l'océan qui, éventuellement, pourraient être submergées un jour à cause de l'évolution écologique de la planète et qui continueraient d'être représentées à l'ONU.
Vous imaginez, au cœur d'un événement qui n'a pas eu lieu, il y a le film d'un pays qui n'existe plus. Quand je dis qu'il est au cœur, c'est que la question est posée, par exemple, au secrétaire général du festival, qui s'appelait Tony Ricou, lui dire, mais au fond, pourquoi y a-t-il un film tchécoslovaque alors que la Tchécoslovaquie n'existe plus? Et il répond, pour nous, la Tchécoslovaquie existe toujours. Voilà de quoi modérer, ou plus exactement éclairer les propos de Jean Zé qui était au début de notre entretien, lorsqu'il dit, nous ne travaillons pas contre la Mostra, sous-entendu, nous ne sommes pas une entreprise antifasciste. On voit bien, en réalité, en disant que la Tchécoslovaquie existe toujours et en le disant dans la sélection, en sélectionnant un film qui est un film anti-hitlérien et pacifiste à la fois, eh bien, ce festival est un festival très engagé.
Un des signes de cela, c'est la part faite aux films dits impériaux à l'époque, c'est-à-dire ceux qui promeuvent la puissance des empires coloniaux des pays, notamment de la France, second empire colonial. Et à cet égard, Jean Zay impose dans la sélection pour Cannes 1939 le film documentaire de Jean Dagrève qui s'appelle « La France est un empire » et dont voici un petit extrait qui, je crois, parle suffisamment lui-même.
Dans nos colonies, dispersées sous tous les climats, les enfants sur les bancs de l'école apprennent à connaître la France. Ils savent qu'ils sont les habitants d'un empire qui est le second du monde. Pour vous faire connaître l'immensité de cet empire, sa puissance et ses ressources, 6 équipes de cinéastes, empruntant les moyens de communication les plus rapides, sont partis à travers le monde. Ils sont allés partout où vivent et travaillent sous la protection du drapeau tricolore plus de 100 millions d'êtres humains.
Il y a aussi un documentaire sur la visite de Daladier en Afrique du Nord.
C'est pour nous une très grande surprise, a posteriori, que des hommes aussi progressistes, aussi porteurs de ce que pourrait être ou devrait être une avancée de l'humanité, mettent autant en avant des films qui sont des films colonialistes, hein, très clairement.
Sauf que il ne faut pas être anachronique.
D'abord, rien de contradictoire à l'époque entre le fait d'exalter l'Empire et d'exalter la puissance française. Au contraire. Et d'ailleurs, c'est pas autre chose que dit De Gaulle le 18 juin, lorsqu'il dit « il nous reste l'Empire ».
Et on pense en particulier au discours de Brazzaville.
On peut penser en particulier au discours de Brazzaville. Mais ici, on est dans la sphère culturelle. Et on voit bien d'ailleurs que dans cet extrait, l'école est un peu convoquée. Ce ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts soutient l'Empire. Mais il ne le soutient pas par hasard. Il s'agit de réaffirmer la puissance française. Et donc, de montrer sa force pour qu'il n'y ait pas de guerre. Parce qu'au fond, Jean Zay cherche à ce que la guerre ne se produise pas. Mais contrairement à l'esprit munichois, il ne cherche pas en faisant des compromis ou en laissant passer et avancer les dictatures, mais en disant qu'il faut au contraire montrer la force et la puissance de la France. Jean Zay n'est pas le seul, Édouard Daladier, le président du Conseil, le réaffirme aussi, et il faut dire qu'ils sont très stimulés par les avancées ou les attaques plutôt que Mussolini produit par rapport à cet empire français qu'il souhaite récupérer du côté de la Tunisie, par exemple, ou de la Corse, mais attention, ici nous ne sommes pas dans l'empire. Bien entendu, ça donne des films qui sont des films d'époque, qui sont dans leur époque désormais datés, mais qui sont formidablement importants. D'ailleurs, Jean Zay s'autorise, mais le règlement le lui permet, à ajouter un film, hein, il y a un article du règlement qui lui permet, à ajouter un film qui en plus est doublement étrange. D'abord, un, parce que ça fait un cinquième film pour la France, ce qui la favorise, contrairement à ce que dit le propos général. Mais deuxièmement, parce que c'est un film documentaire. Et là, on voit qu'il y a un contrepoint à Leni Riefenstahl, à la Mostra de Venise en 1938, parce que le film Olympia, c'est un documentaire. Et donc, face aux dieux du stade, il y a « La France est un empire ».
L'Olympia, c'est-à-dire les dieux du stade, c'est-à-dire ce film formellement splendide consacré aux Jeux Olympiques de 1936.
Ce film qui est un film techniquement remarquable, éblouissant même, mais qui est une propagande nazie ultra.
Il nous reste quelques temps pour évoquer Olivier Loeb, pour évoquer les dernières semaines dans la précipitation de la préparation de ce festival qui est illustré à l'époque par une magnifique affiche de Jean-Gabriel Domergue que vous reproduisez en couverture de votre ouvrage sur ce festival qui n'a pas eu lieu.
L'affiche de Jean-Gabriel Domergue, avec le récit de Erlanger, c'était les deux choses qui subsistaient du récit de l'invention du Festival de Cannes. Il y en avait une troisième que j'ai eu la chance de découvrir, ce sont les archives elles-mêmes du festival, qui sont désormais déposées par le festival lui-même à la Cinémathèque française à Paris. Mais cette affiche, elle dit énormément de choses, parce qu'elle dit à la fois ce qui est, à ce moment-là, l'engagement de l'art, mais d'un art qui est un art, malgré tout, un peu daté. Imaginons que ce...
C'est pas une surprise.
C'est pas une surprise, mais quand même, il y avait d'autres possibles. Et d'ailleurs, le Festival de Cannes, à l'époque, produira d'autres types d'images. Mais simplement, celles-ci n'ont pas passé la rampe, et surtout, elles n'en font pas l'affiche générale. Donc, on a un festival, en plus, qui se propose comme une manifestation artistique. On a l'impression d'être à l'opéra, plus que dans une salle de cinéma.
On aurait été prêt, en fait, on aurait été prêt, après avoir cravaché dans les dernières semaines, avant le festival du 1er septembre 1939. Néanmoins, il y a quelques signes inquiétants. Je pense à ce bal des petits lits blancs qui se termine dans une débandade.
Oui, alors là, c'est vraiment une sorte d'avant-première ratée, comme on en fait guère.
Métaphorique.
Ah oui, une métaphore vertigineuse. En fait, il faut enlever le conditionnel. On était prêt, très clairement. On est à deux jours, à trois jours du début du festival. Tout est prêt. La salle de spectacle est montée. On a encore dans les archives les coupons du velours rouge des fauteuils. Hein, c'est le seul signe matériel qui reste de cette salle. Hein.
Les 1000 places.
Les 1000 places, 994 pour être encore plus exact.
Dont Jean Zay se faisait gloire.
Il s'en faisait gloire à juste titre parce que c'est un tour de force qui n'est possible que parce que l'état culturel de l'époque est capable d'organiser ça avec cette vitesse-là, largement soutenue, secondée par les financements de la mairie de Cannes et par la qualité d'organisateur d'Henri Gendre sur place, hein, qui sait mettre tout le monde ensemble, les artisans, etc., etc. Non, tout était prêt, mais comme de nos jours, c'est-à-dire que, vous le savez, puisque c'est tout bientôt que va s'ouvrir la prochaine édition, jusqu'à la veille parfois, on n'a pas les films entièrement montés, hein, et ils vont l'être parfois même dans la première semaine du festival quand ils passent dans la seconde. C'est déjà le cas. Il y a une sorte d'effervescence, et en particulier cette possibilité de diffuser et de faire sur la plage de Cannes, de reproduire une Notre-Dame en carton-pâte. Parce que
cela a été évoqué tout à l'heure par Erlanger.
Ah oui, parce que c'est un film qui s'appelait Le Bossu de Notre-Dame, qui finalement n'était pas sélectionné au bout du bout, mais qui aurait été une avant-première.
D'après Victor Hugo,
avec Charles Laughton en Quasimodo de façon extraordinaire.
On ne peut qu'être sensible quand on restitue cette histoire du festival fantôme de 1939 par l'évidence que l'illusion d'un cinéma comme objet esthétique qui serait hors de l'histoire a volé en éclats.
C'est effectivement l'entrée de la politique dans le cinéma de façon officielle et internationale.
D'ailleurs, les Italiens et les Allemands ne viennent pas à Cannes.
Ils sont invités. Ils refusent de venir, pour ce qui est une évidence, de la même façon d'ailleurs que la France est invitée et les États-Unis sont invités à la Mostra de Venise de 1939.
Quelques semaines avant,
et que ni les uns ni les autres n'iront. Donc de fait, il y a, la grande illusion du fait que le cinéma est apolitique, que ce soit du côté de Venise ou du côté de Cannes, tout le monde est invité à venir, mais bien évidemment, on fait des choix, et des choix forts, on sélectionne la Tchécoslovaquie, et on ne va pas à Venise, ou bien on ne va pas à Cannes lorsqu'on est Goebbels ou lorsqu'on est Mussolini. L'affaire est hautement géopolitique. Et c'est vrai que c'est un moment où le cinéma perd de sa première virginité juste après avoir reçu l'adoubement du fait d'être un art. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à vivre parmi toutes les complications des années 30. Celle-là, vue du monde de la création, du monde de l'art, elle est fondamentale. C'est-à-dire que le monde du cinéma, enfin reconnu comme un art, se voit obligé d'accepter que cet art est aussi une industrie et une politique, et qu'il ne peut pas s'en abstraire tout en revendiquant, même les fondateurs de Cannes, l'apolitisme. Donc, on est sur des jeux qui sont toujours les nôtres, qui sont ceux que, au fond, la production culturelle est évidemment prise dans un environnement et dans des intentions politiques, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise.
Et naturellement, la Seconde Guerre mondiale qui a estourbie le festival Fantôme de 1939 ne peut que démontrer ça avec plus de force encore quand Hollywood se met en particulier au service, pourquoi nous combattons, se met au service de l'effort de guerre américain.
Jusque dans ces dessins animés, on a des Tex Avery qui sont là pour promouvoir le fait de souscrire aux bons pour la défense américaine. Effectivement, le cinéma comme soft power, c'est avec la naissance de Cannes qu'on le voit de façon concrète et qu'il est agi par les gouvernements de façon concrète.
Olivier Loub, reste à voir ce qui continue de marquer le festival dès lors qu'il renaît en 1946, ce qu'il en est resté et quel type d'hommage a pu être fait ou non fait par la suite à 1939.
46, la naissance de Cannes, pour vue de Cannes, ou la renaissance vue des historiens que nous sommes, c'est quelque chose de très paradoxal. À la fois, vous avez une continuité des équipes, Erlanger, Huysmans sont là à nouveau, à la présidence, à la délégation générale, même le comte d'Herbemont, du côté des activités mondaines, de tous les galas qui sont prévus, c'est le même en 46 qu'en 1939. Donc,
Il y a une exception, c'est évidemment Louis Lumière, qui avait été choisi comme président d'honneur, puisque c'est un des fondateurs du cinéma essentiel, l'entrée du train à La Ciotat, Louis Lumière, qui, sous l'occupation, a été enclin à se rapprocher de Vichy, c'est une litote.
Oui, absolument. Louis Lumière a fait partie de ces notables qui ont soutenu le régime de Vichy, de fait. Et effectivement, en 1946, il n'est plus possible de convoquer cette grande figure fondatrice du cinéma français. Ça, c'est certain. Il était président d'honneur. Il était évidemment là pour soutenir. Il fait d'ailleurs des textes pour soutenir ce festival. En 1946, ça n'est plus possible.
Il a fait aussi des textes pour soutenir Vichy.
Parce qu'il a fait des textes pour soutenir Vichy.
Comme le dit Pascal Horry, en fait, il y a une descendance honorable que l'on peut regarder de façon optimiste, et une autre qui appelle plutôt le pessimisme, une descendance de Cannes 1939.
La descendance de Cannes 1939, c'est une descendance, je le disais, paradoxale, continuité des acteurs, mais absolument aucune référence à 39. Aucun hommage à Jean Zay, par exemple, à ce moment-là, qui disparaît alors que ce sont ses propres collaborateurs, et des collaborateurs qui ont de l'admiration pour lui. C'est simplement que les temps ont changé et qu'on ne peut pas fonder le cinéma d'un monde qui s'est libéré en s'appuyant et en faisant référence à une entreprise mornée dans les affres des débuts de la guerre.
Il y a néanmoins des étapes de cette reconnaissance tardive, effectivement. Je pense à 2012 à Cannes. La plaque qui est apposée en souvenir de Jean Zay est une des plus tardives, mais elle est là. Et à Orléans, la ville de Jean Zay, en 2019, on a reconstitué un festival, à l'initiative notamment d'Antoine Debecq et des amis des deux filles de Jean Zay.
Cannes 1939 à Orléans 2019, c'est comme ça que s'appelait cette manifestation, qui est effectivement la première fois où on a redonné au public l'intégralité, ou presque, des films qui auraient dû être projetés en septembre 1939 à Cannes. Et avec un jury présidé par Amos Gitai, un très grand réalisateur israélien. Et ce jury-là, effectivement, a revu tous les films ou presque en présence du public. Donc, on a refait Cannes 39 à Orléans 19. Et c'était un moment magnifique, un moment magique, faut bien le dire. Et pour lequel on s'est régalé. Où sont venus les Américains, d'ailleurs, c'est le cas. Où est venu le patron actuel de la MPA, de la Motion Picture Association. Et c'était un très, très beau moment. Où effectivement les prix qui ont été distribués sont des prix qui marquent bien qu'on les a vus en 2019, ces films. Par exemple, c'est sûr qu'on aurait pu, comme en 2002, lorsqu'un premier jury présidé par Jean d'Ormesson à Cannes même, mais qui ne voit que sept films, décide qu'il s'agit du western de Cécile B2000, qui s'appelle Union Pacific, qui va être primé. Désormais, on est beaucoup plus tourné vers Capra. On va aller voir Mr. Smith au Sénat, parce qu'il dit des choses aussi sur notre démocratie et sur la force de la démocratie libérale face aux dictatures.
Votre livre, Olivier Loub, qui a été publié pour la première fois en 2016 et que, à bon escient, Duno vient de rééditer, Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, est aisément accessible. C'est un livre qui a reçu le prix du livre d'histoire du cinéma, qui est attribué chaque année par le Festival international du film d'histoire de Pessac. Je signale aussi le film dont vous êtes le co-auteur, Olivier Loub, le film dont le réalisateur est Julien Ouguergouz, qui s'appelle Cannes 1939, le festival n'aura pas lieu, un film de 2018. Mais je voudrais surtout rendre hommage à un livre qui paraît ces jours-ci, dont vous êtes un des deux responsables, avec Pierre Alorant, votre complice, qui est consacré dans la collection Bouquin à Jean Zay sous le titre Jeunesse de la République. C'est un hommage qui est d'une grande efficacité. Il sort ces jours-ci.
Oui, il sort prochainement. Ce qui nous a, avec Pierre Alaurent, particulièrement passionnés, c'est de donner à lire un Jean Zay écrivain politique, mais aussi écrivain de romans, écrivain de nouvelles. C'est-à-dire qu'on donne à voir ce personnage sous ses deux facettes complémentaires. On vient d'évoquer longuement son goût pour le cinéma. C'est un homme qui a un goût pour la littérature et pour l'écriture, que ce soit l'écriture journalistique dès son plus jeune âge, comme son père Léon Zay, qui était rédacteur en chef du journal quotidien radical d'Orléans, qui s'appelait Le Progrès du Loiret, mais aussi pour l'écriture et bien sûr de discours, qu'il écrit lui-même, ce qui est pas si évident que ça. Bon, aussi ses éditoriaux dans la presse, d'accord, mais il écrit des contes et des nouvelles, et il écrit en prison deux romans policiers qui sont publiés à nouveau dans ce livre-là. Et puis, au cœur de cet ouvrage, il y a bien sûr l'exceptionnel Souvenir et solitude, ce texte qu'il rédige en prison.
Il faut vraiment mettre ça en exergue. C'est un livre magnifique qui a été publié après la libération, mais qui a connu un nouvel essor dans une période plus récente.
Dès 1946, ce texte que Jean Zay souhaitait voir publié est publié, et il est préfacé par Jean Cassou,
grand résistant,
qui est le président des Amis de Jean Zay à la suite de Marcel Abraham, grand résistant, grand homme de lettres aussi, et directeur de musée. Et puis, en 2010, il va être publié en poche, et ce qui va lui donner une seconde jeunesse, et on espère renouveler cette jeunesse en le publiant en 2024, désormais accessible pour tous. Les souvenirs sont ceux du ministre, la solitude est celle du détenu, et le tissage de ce fil de trame et de ce fil de chaîne est absolument prodigieux et nous emporte. On comprend combien le créateur du Festival de Cannes dans cette création chorale était un homme qui portait une conception de la culture qui est celle du Front Populaire, mais au fond celle de tous les Républicains de progrès.
Et ce livre a connu naturellement une notoriété renouvelée à l'occasion de l'arrivée des cendres de Jean Zay au Panthéon. On peut y accéder séparément dans une édition Belin. C'est à cette occasion d'ailleurs du Panthéon que vous aviez réédité votre biographie de Jean Zay, La République au Panthéon. On l'avait réédité chez Dunod en 2021. On a aussi publié séparément La correspondance de Jean Zay. C'est un très bel épistolier.
C'est un remarquable épistolier, absolument. Il écrit tous les jours à sa femme lorsqu'ils sont séparés. Il écrit à ses amis, Pierre Mendès France, qui lui écrivent en retour. Et cette littérature épistolaire de Jean Zay nous fait pénétrer jour après jour, hein, justement, dans sa personnalité, qui est d'une une richesse, une profondeur assez exceptionnelle.
Vous avez compris que j'ai souhaité que cette émission sur le festival de 1939, qui n'a pas eu lieu, le festival Fantôme, soit aussi un hommage à la personnalité vraiment lumineuse de Jean Zay. Vous pourrez trouver une bibliographie encore plus complète sur notre site, vous le savez, avec également la possibilité d'écouter, de réécouter et de podcaster cette émission. Et tout en se donnant le bonheur d'entendre au moins une partie de la célèbre chanson interprétée par Judy Garland, Over the Rainbow, un extrait du Magicien d'Oz, le film de Victor Fleming, on est en plein au cœur de ce festival de 39 que nous avons évoqué ce matin, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Olivier Leroux à la prise de son, Keating Wang à la discothèque, Véronique Jolivet pour les archives de l'INA et Noémie Boncourt pour la documentation.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.